musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Mercredi, Je vous dis pas, bonjour, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Martine. Bonjour Martine.
Bonjour Roland, bonjour Fanny, bonjour tout le monde.
Et de Fanny du cinéma, il est bonjour Fanny.
Bonjour.
On n'oublie pas non plus Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et on commence ces projections avec Lego Ninjago Philippe.
C'est un film d'animation, bien sûr, réalisé par Charlie Bean, Paul Fisher et Bob Logan, ces trois personnes qui étaient à l'origine de la grande aventure Lego et de Lego Batman aussi, le film. Donc ça reste un peu dans le même esprit, bien sûr, très drôle, avec tous ces Lego animés. Nous allons retrouver Lloyd, qui est surnommé le Ninja Vert. Il est en gros, c'est un peu...
C'est Hulk, non ?
Non, c'est un peu Peter Parker, tu vois, Spider-Man. Il est un peu rejeté le jour, pas beaucoup d'amis, voilà. Et puis la nuit, eh ben, c'est un super héros. Alors il va s'allier avec des maîtres bâtisseurs Lego, des ninjas spécialisés dans l'infiltration et également le maître de Kung-Fu qui s'appelle Wu, pour affronter un grand méchant qui s'appelle Garmadon, qui n'est rien d'autre, qu'on va découvrir, que le père de Lloyd, justement, le Ninja Vert, qui veut tout détruire, la ville de Ninjago City. Voilà, donc l'histoire est simple, mais c'est très drôle. Il y a tous ces petits Lego animés, puis il y a des décors réels dedans. Voilà, parce qu'ils ont mélangé un peu ça. Les réalisateurs ont expliqué que quand ils étaient petits, en fait, ils aimaient bien jouer au Lego, sauf qu'en fait, ils les mettaient... Tu vois, par exemple, ils jouaient au Lego, mais dehors, tu vois, dans l'herbe. Et
dans un bac à sable, par exemple.
Voilà, par exemple. Et ils mettaient leur Lego dans des décors réels. C'est ce qu'ils ont essayé de refaire dans ce film, justement. Alors, il y a des trucs qui s'incrustent un peu. Il y a des décors un peu... Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est très drôle. Et puis, il y a l'humour aussi qu'on a retrouvé dans les derniers films Lego qui sont de retour avec Ninjago.
Un Lego plongeur, tu le mets dans une bassine.
Oui, une bassine d'eau. Et puis, tu faisais blou, 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 comme ça.
C'est génial.
Puis voilà. Il y aura ça dans le film.
Lego Ninjago à découvrir ce jour au cinéma, il est dès 16h, ou bien le samedi 27 octobre, également à 16h, au cinéma, il est. Au revoir, là-haut, Fanny, c'est pour la suite.
Après Bernie et 9 mois ferme, pour lequel il a reçu 2 Césars en 2014, Albert Dupontel revient avec un 6e long métrage, Au revoir, là-haut, qui est adapté du roman éponyme de Pierre Lemaitre, qui avait reçu le prix Goncourt en 2013. Le film se passe à la fin de la Première Guerre mondiale avec deux rescapés des tranchées, Édouard, joué par Nahuel Pérez Biscayart, que l'on a vu récemment dans 120 battements par minute. Donc Édouard est issu de la haute bourgeoisie et il est défiguré à vie. L'autre, Albert, joué par Albert Dupontel, d'origine modeste et sain et sauf. Ils vont monter une arnaque au monument aux morts par vengeance, autant personnelle que contre l'armée et les institutions. Fidèle au roman qu'il adapte, Albert Dupontel filme les laissés pour compte, les oubliés de la Grande Guerre. Ce sont les archétypes sociaux du livre qui ont intéressé le réalisateur. Il y a vu un pamphlet contre l'époque actuelle, car notre époque aussi a ses gueules cassées. Pour Pierre Lemaitre, les sans-abri d'aujourd'hui, eux aussi ont fait une guerre économique. On retrouve dans le film la thématique sociale où s'opposent les modestes aux puissants, récurrente dans les films de Dupontel. Mais Au revoir là-haut se démarque des films précédents dans son côté épique, notamment dans la reconstitution du champ de bataille ou des tranchées. Dupontel crée un univers irréaliste dans le Paris de l'après-guerre, flirtant avec l'onirisme, utilisant des couleurs passéistes et mettant en scène des masques que conçoit Édouard pour dissimuler son visage défiguré, qui font référence aux artistes de l'époque comme Cocteau, Duchamp ou encore Modigliani. Pour Albert Dupontel, l'adaptation coulée de source, le livre de Pierre Lemaitre est un véritable mode d'emploi pour un scénario tant son écriture est visuelle et ses personnages parfaitement définis psychologiquement, le tout dans une narration au rebondissement continu. Pour les fervents lecteurs du livre, il faut savoir qu'Albert Dupontel a modifié la fin. Pierre Lemaitre a été consulté durant l'écriture du scénario, mais il a souhaité laisser une totale liberté au réalisateur dans son adaptation afin qu'il propose sa propre version du livre. Les seconds rôles sont très bien interprété. On retrouve Laurent Lafitte dans le rôle de l'odieux capitaine Pradel, spécialisé dans l'escroquerie autour de la mort. Mais aussi Nils Arestrup, qui interprète le richissime père d'Edouard qui croit son fils mort. On peut cependant regretter que les personnages féminins soient si peu creusés, malgré qu'ils soient tenus par Émilie Dequesne et Mélanie Thierry.
Au revoir là-haut, c'est ce jour au cinéma, il est dès 18h, le jeudi 26 octobre à 21h, le samedi 27 octobre à 18h et le mardi 31 octobre à 21h au cinéma, il est Philippe, on poursuit avec Thor Ragnarok. Ça se dit comment ?
Ragnarok.
Philippe, on poursuit avec Thor Ragnarok.
Alors, ça n'a rien à voir. Hein,
avec, ah ben non, c'est pas vraiment du Coq à l'âne. Hein.
Voilà,
on est bien d'accord.
C'est réalisé par Taika Waititi. C'est la suite des films, bien sûr, de Thor et de Thor, le monde des ténèbres, qui était sorti en 2011 et en 2013. Le 17e film de l'univers de Marvel, qui met en scène Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch et Anthony Hopkins. Voilà, plein de beau monde. Alors, ça se passe après les événements d'Avengers, l'ère d'Ultron, voilà, qui était sorti en 2015. Alors, il faut remettre un peu dans le contexte, hein, parce que c'est Marvel, donc tout est un peu lié, mais il y a des trucs qui se mettent avant d'autres, d'autres après. Donc, l'ère d'Ultron, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était il y a 2 ans. À la fin, on retrouve Thor qui est emprisonné à l'autre bout de l'univers et sans son marteau. Donc, dans ce film, eh bien, il va être lancé dans une course contre la montre. Il va essayer de revenir chez lui, à Asgard, et empêcher le Ragnarok, c'est-à-dire la destruction de sa planète et de la civilisation qui... Voilà, oui, ça veut tout détruire.
Oh, oui, très bien.
Sa planète d'Asgard.
Bah oui, bah c'est un peu Marvel.
Un peu embêtant pour lui. Donc,
ah bon,
voilà. Alors, ce Ragnarok va être dirigé par une nouvelle menace surpuissante, bien sûr, comme dans tout nouveau film de super-héros. C'est la terrible Hela. Voilà, une déesse qui peut détruire le marteau de Thor comme ça d'un coup. Voilà. Ça. Et donc, il va devoir survivre, eh bien, tout d'abord, un combat de gladiateurs qui va lui faire affronter son ancien allié, qui n'est rien d'autre que Hulk. Mmh. Voilà, donc vous verrez une confrontation entre Thor et Hulk. Qui c'est qui va gagner,
hein? C'est Hulk, parce qu'elle est verte.
Ah d'accord, ah, c'est, tout marche sur la couleur en fait.
Exactement.
Ah, bah, peut-être, je sais pas.
On sait pas non plus.
Donc vous verrez ça dans Thor Ragnarok. Peut-être que personne gagnera. Hein,
à la fin, sait pas, voilà. Et on se serrait la main.
Oui.
Exactement, voilà, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants.
Exactement, entre Thor
et Hulk. Je sais pas ce que ça va donner.
Mais... bébé vert avec un marteau.
Voilà, voilà. C'est ça.
Merci Fanny. Thor Ragnarok, c'est à découvrir ce jour au cinéma. Il est dès 21h le vendredi 27 octobre à 16h, le samedi 27 octobre également à 21h, ou bien le mardi 31 octobre à 18h. Martine, on poursuit avec l'école buissonnière.
L'école buissonnière, c'est réalisé par Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Valérie Carcenti, Jean Scandel et Éric Elmosnino. Alors, ce que j'ai lu et entendu, eh ben, c'est que vous ne le regretterez pas. Vous ne regretterez pas d'aller voir ce joli conte. On passe d'un Paris d'avant-guerre, nous sommes en 1930, à une Sologne merveilleuse, mystérieuse et sauvage, jusqu'à un manoir et sa ferme, que découvre le jeune garçon Paul, qui n'a connu que les hauts murs et les dortoirs d'un orphelinat. Alors c'est sa quête d'identité, son initiation à la nature et à la vie, grâce au couple de fermiers qui l'accueille, et un braconnier sage, malin et amoureux de sa forêt. Alors on connaissait la passion de Nicolas Vanier pour l'exploration du monde, qu'il sait nous faire partager. Elle est à l'œuvre dans ce film qui entraîne Paul et les spectateurs dans l'admiration de la nature, des animaux et de ce lieu féerique qu'est la Sologne. Alors en somme, l'école buissonnière est un long métrage qui fait du bien, porté par une photographie éblouissante, une superbe musique signée Armand Amar qui colle parfaitement au film, et on en sort émerveillé par les belles images de ce solonio de cœur et d'origine qui donne le premier rôle à la nature et aux animaux. Alors je ne vous cache pas cependant que certaines ont frôlé l'ennui et ne sont pas tombés sous le charme de ce joli mélo exotique et touchant, et encore moins du cabotinage des acteurs. Bon, il y a un peu de vrai, mais ceux qui ont lu dans leur enfance lointaine Le Grand Moule ou Le Petit L'Orphant de le Roi, eh bien eux, ils vont savourer et ils vont aller se balader en Sologne le week-end d'après.
L'école buissonnière, ce jeudi 26 octobre au cinéma, il est dès 16h, ou bien le dimanche 29 octobre à 16h également. Philippe, Le Sens de la Fête, une comédie française très drôle.
Oui, très drôle. Derek Toledano et Olivier Nakache qui nous ont déjà sorti Nos Jours Heureux par exemple, Intouchable, Samba. Et là, on retrouve donc Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, entre autres, hein, dans ce film qui suit en gros l'histoire de Max qui est traiteur depuis 30 ans déjà. Hein, il a organisé des centaines de fêtes. Là, il arrive au bout. Hein, c'est un peu la fin pour lui, enfin la fin de son activité professionnelle, hein, j'ai envie de dire. Donc là, il va finir avec un truc un peu énorme, un grand mariage dans un château du XVIIe siècle.
Oui, c'est très chic.
Voilà, très chic. C'est pour Pierre et Elena, voilà, c'est leur mariage aujourd'hui. Alors comme d'habitude, eh bien Max, il a tout coordonné, voilà,
tout est carré,
tout est voilà, il a recruté tout le monde, alors sa brigade de serveurs, ses cuisiniers, ses plongeurs, il a même conseillé un peu aux mariés le photographe, il a réservé l'orchestre, toute la déco des fleurs et tout, c'est lui qui a aussi un peu arrangé tout ça. Enfin voilà, il a un peu tout fait. Et il a réuni tous ces ingrédients comme ça de ce mariage qui font d'un mariage normalement dans un château comme ça, une fête un peu inoubliable, voilà, un truc réussi, voilà, où tout le monde est heureux. Mais
sauf
que, eh bien, il y a toujours cette loi des séries, voilà, qui fait que quand il y a quelque chose qui va pas, eh bien, tout s'enchaîne après.
Petit aléa, voilà, qui dit à ça de galère.
Un petit truc, un petit grain de sable dans le rouage, voilà, qui fait tout dérailler. Donc il va, tout le planning est tellement serré, tout est sur le fil, tu vois, tout est calculé, et bah le moindre petit truc peut se transformer ce mariage en désastre ou en chaos.
Et ça part au chaos.
Et à notre grand bonheur, c'est ce qui va arriver.
Tout à fait.
Voilà. Donc, on va suivre tous les préparatifs du mariage jusqu'à l'aube, jusque dans les coulisses de ce mariage et tout ça, jusqu'au jour où, eh bien, le mariage va commencer. Et puis finalement, eh ben, tout va capoter. C'est ce qui va être très drôle. Et on va découvrir dans ce film que, eh bien, toutes les personnes qui sont là, les mariés, les traiteurs, enfin ceux qui travaillent et tous les invités, eh bien, ils ont une qualité en commun. Voilà. C'est le sens de la fête.
Exactement.
Voilà. Puisque bah, finalement, c'est un mariage, c'est une fête, donc on va bien rigoler et il n'y a rien qui va aller comme il faut.
Le sens de la fête, c'est ce jeudi 26 octobre dès 18h15 ou bien le dimanche 29 octobre dès 21h. Fanny Détroit en version originale sous-titrée. On passe vraiment du coq à l'âne cette semaine au cinéma. Allez.
Il y en a pour tous les goûts.
Exactement.
Voilà, ça, on va dire Fanny. Ça comme ça.
Après Des Mineurs et Zero Dark Thirty, la réalisatrice américaine Catherine Bigelow, seule réalisatrice oscarisée d'Hollywood, poursuit sa plongée dans les heures sombres de l'histoire des États-Unis. Le film sort 50 ans après l'une des plus importantes émeutes raciales des États-Unis qui ont eu lieu à Détroit le 23 juillet 1967. Ces émeutes ont duré 5 jours, ont causé la mort de 43 personnes, dont 33 afro-américains, et en ont blessé 467 autres. Le film se concentre sur le récit de l'incident de la Cheers Motel, bar clandestin d'un quartier noir de Détroit où a lieu une descente de police alors qu'un groupe d'afro-américains se retrouve pour fêter le retour de deux vétérans du Vietnam. La réunion dégénère en émeute violente et l'armée finit par intervenir. La police arrête des membres de cette soirée qui sont ensuite violentés, torturés psychologiquement et subissent une avalanche de propos racistes. Le film est assez violent et il est interdit aux moins de 12 ans. Les auteurs du film ont souhaité être au plus près de la réalité en racontant cette histoire. Ils ont effectué beaucoup de recherches, se sont appuyés sur des documents juridiques et ils ont rencontré un maximum de témoins qui leur ont raconté les faits de leur point de vue avec beaucoup de détails. Détroit est tout de même critiqué pour ses oublis, notamment le fait que s'il y a eu un procès à l'issue de ces événements, c'est grâce à la mobilisation des habitants de Détroit. C'est souvent ce qui est reproché à des films qui traitent de faits réels. Il ne faut quand même pas oublier qu'il reste des fictions et qu'il n'existe pas de film totalement objectif puisqu'il y a toujours des êtres humains à leur origine et qu'ils choisissent d'aborder un sujet d'après un point de vue. En tant que blanche issue d'un milieu aisé, la réalisatrice a également été accusée d'illégitimité par plusieurs éditorialistes au moment de la sortie du film aux États-Unis, mais elle a déclaré « Suis-je la meilleure personne pour raconter cette histoire ? Non, cependant je suis en position de le faire alors que cela fait 50 ans que l'on attend. » Elle ajoute dans une interview au Monde « Au nom de quelle étrange disposition de mon cerveau liée à ma couleur de peau serais-je incapable de comprendre les émeutes de Détroit en 1967 et surtout de comprendre que le racisme aux États-Unis reste ininterrompu ? Aujourd'hui, le racisme décomplexé est toujours d'actualité aux États-Unis. Les manifestations racistes de Charlottesville en août se sont produites une semaine après la sortie américaine de Détroit le 4 août.
Détroit en version originale sous-titrée ce vendredi 27 octobre dès 18h30. On poursuit, Fanny, avec la fête du cinéma d'animation, c'est la Passion Van Gogh.
Donc la fête du cinéma d'animation continue au Ciné-Ilé avec la Passion Van Gogh de Dorota Kobiela et Hugh Welshman, qui a remporté le prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy, où j'ai pu le découvrir en avant-première mondiale dans une salle remplie de 1200 spectateurs enthousiastes. La séance s'étant terminée sous un tonnerre d'applaudissements.
Et toi, enthousiaste ou pas ?
Un petit peu moins, mais... mais ça vaut le coup quand même. Donc c'est le premier long métrage entièrement peint à la main, mais il existe beaucoup de courts métrages qui utilisent cette technique, comme ceux par exemple de Florence Miaille. D'ailleurs, la réalisatrice avait dans un premier temps fait un court métrage sur le peintre impressionniste. L'histoire commence pendant l'été 1891, presque un an après le suicide de Vincent Van Gogh. Armand Roulin, doublé dans la version française par Pierre Ninet, est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en main propre une lettre à Théo, le frère du peintre. Mais Armand apprécie moyennement l'amitié entre son père et l'artiste et n'est donc pas très motivé au départ pour accomplir cette mission, d'autant plus que Théo est introuvable. S'il est introuvable, c'est qu'il a été anéanti par la mort de son frère aîné et qu'il ne lui a survécu que de quelques mois. C'est alors qu'Armand commence à devenir de plus en plus curieux et décide de partir à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. Au fil de ses rencontres, avec les hommes et les femmes qui ont croisé la route de Vincent Van Gogh, il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée et qu'elle conserve une grande part de mystère. Ce qui est particulièrement impressionnant dans ce film, c'est la technique d'animation utilisée. Chacun des 62 450 plans est une huile peinte à la main sur toile par 90 artistes venus du monde entier, principalement d'Europe, qui ont passé 2 ans à peindre chaque plan.
Wesh, ah ouais.
Eh oui.
C'est du boulot quand même.
La technique de la rotoscopie est utilisée, c'est-à-dire que des acteurs ont été filmés en train de jouer chaque scène et des artistes ont peint par-dessus ces images, ce qui donne un effet plus réaliste. Pour raconter cette histoire sous forme d'enquête policière, les auteurs mettent faits historiques et fiction. Ils se sont inspirés de plus de 800 lettres que Van Gogh a écrites à ses amis et à sa famille et ils ont intégré 130 tableaux de l'artiste, parfois dans leur totalité, parfois en partie seulement. Ce choix d'utiliser la peinture animée pour raconter l'histoire de Van Gogh vient de la dernière lettre de l'artiste qui déclarait « On ne peut s'exprimer que par nos tableaux ». La réalisatrice a donc eu envie de laisser les tableaux raconter cette histoire. Donc mon avis personnel, c'est que rien que pour la technique utilisée, ça vaut le coup de voir ce film.
La passion Van Gogh durant la fête du cinéma d'animation, c'est ce vendredi 27 octobre au cinéma. Il est dès 21h. Fanny, Téhéran Tabou en version originale sous-titrée.
Téhéran Tabou est le premier film d'animation à être sélectionné en compétition à la Semaine de la Critique, section parallèle du Festival de Cannes, malgré que ce soit la 56e édition, ce qui montre bien le peu d'intérêt porté au cinéma d'animation et la préférence pour les films tournés en prise de vue réelle. L'auteur du film, Ali Souzandeh, est né en Iran. Il y a étudié l'art, mais s'est exilé en Europe où il vit depuis de nombreuses années. Il a participé à de nombreux projets cinématographiques et télévisés en tant que spécialiste de l'animation avant de se lancer dans la réalisation de son premier long métrage, Téhéran Tabou. À travers le parcours de 3 femmes et d'un jeune musicien, le film aborde le thème de la sexualité sous différents angles dans une société où le sexe est tabou. Il traite des dérives liées aux privations de liberté, que ce soit à cause de la justice, de la religion ou des coutumes. Marjane Satrapi avait également abordé ces questions avec Persepolis, mais avec plus d'humour. Téhéran Tabou reste au contraire assez sombre, mais c'est finalement très représentatif des problèmes que peuvent rencontrer les Iraniens et les Iraniennes encore davantage. Au départ, le réalisateur voulait tourner son film avec des acteurs, mais il s'est vite rendu compte que cela lui serait impossible à Téhéran. Il aurait pu tourner au Maroc ou ailleurs, mais il tenait à représenter la ville de Téhéran. Il s'est donc tourné vers le cinéma d'animation qu'il connaissait bien et a dessiné les décors de la ville tels qu'il l'avait connu. Le film utilise la technique d'animation de la rotoscopie, comme l'avait déjà fait précédemment Harry Feldman avec Valse avec Bachir. Cela consiste à faire jouer des acteurs devant un fond vert et de les redessiner par-dessus les images qui sont ensuite incrustées dans le décor. L'effet souhaité est de donner beaucoup de réalisme aux personnages, à leurs expressions et à leurs mouvements, ce qui est très réussi. Les spectateurs qui l'ont vu lors de la séance précédente ont d'ailleurs trouvé que l'animation donnait une force au film que la prise de vue réelle n'aurait pas autant permise.
Téhéran Tabou, cette semaine en version originale sous-titrée au cinéma. Il est ce dimanche 29 octobre à 18h15. Martine, on poursuit avec le petit Spirou.
Oui, oui, c'est plus que léger, c'est franchement très ennuyeux. Alors, le petit héros des bandes dessinées belges, créé par Tom et Jean Rie en 1987, était issu de l'univers originel de la série Spirou et Fantasio, et il réapparaît au cinéma dans ce long métrage de Nicolas Barry avec Sacha Pinault dans le rôle de Spirou, Pierre Richard en Grand Papy, François Damias en Monsieur Mégot et Gwendoline Gourvenec et la belle Mademoiselle Chiffre, et même Philippe Catherine en maître de musique.
J'adore!
Oui.
C'était le titre de Philippe Catherine.
Spirou, qui va être groom et travailler dans un hôtel comme toute sa famille avant lui, veut profiter avec ses copains de ses derniers jours de classe pour vivre une aventure extraordinaire. Alors, la difficulté était de transformer des petites histoires en un scénario cohérent. Le choix d'acteurs épatants, dont le jeune Spirou d'une nature formidable, ne suffit malheureusement pas pour être pris. La critique dans la presse reconnaît qu'il est toujours difficile de recréer à l'écran l'esprit d'un univers graphique. Les spectateurs, dont j'étais, sont partagés entre ennui et déception. Pour ceux qui avaient adoré les BD, et d'autres ont voulu y voir de la poésie et des personnages attachants et ont passé un très bon moment avec leurs enfants. Alors j'avoue ne pas avoir résisté jusqu'au bout à un ennui profond et à un Jean-Pierre, et à un Jean, pardon, à un Pierre Richard réellement insupportable.
Le Petit Spirou, lundi 30 octobre, dès 16h, Philippe, confident royal en version originale sous-titrée.
C'est un film biographique britannique de Stephen Frears qui est sorti bien cette année. Hein. Le film s'inspire de l'histoire vraie, mais ça s'inspire un peu librement, hein, mais d'une histoire vraie, celle de la relation entre la reine Victoria et son serviteur indien Mohammed Abdul Karim, qui va lui accorder de nombreux honneurs aux grandes dames des membres de sa cour. Donc on va découvrir un peu la fin du règne de Sa Majesté, la reine Victoria, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, reine du Canada et impératrice des Indes. Ça fait un peu Game of Thrones. Hein. Donc voilà, alors à la fin de son règne, dans les années 1887, pendant le jubilé de sa reine, eh bien, on va découvrir cette reine Victoria qui est un peu seule depuis la mort d'Albert, 30 ans plus tôt. Albert, c'était son mari et aussi son cousin, hein, mais ça, c'est autre chose. Et on découvre, du coup, dans la scène d'intro du film, un grand banquet, voilà, et qui montre un peu la solitude comme ça de la reine Victoria qui est toute seule, puisque tous les convives et ceux qui servent et tout ça, eh bien, ils sont là, mais en fait, voilà, ils la servent, ils la font vivre en fait, hein, ils s'occupent d'elle sans la regarder, voilà, comme si elle n'était pas là. Et c'est d'ailleurs bien le protocole, hein, puisqu'ils ont invité deux Indiens, pour présenter une pièce commémorative des Indiens, puisque comme elle est impératrice des Indes, ben voilà, c'était la colonie, voilà, ils sont venus présenter des choses et il leur avait dit, voilà, le protocole, c'est vous regardez pas la reine surtout, hein, ne pas la regarder dans les yeux, et puis quand vous sortez de la pièce, faut sortir à reculons comme ça avec le dos courbé et tout, voilà, c'est le protocole, hein, royal, bon, c'est, voilà. Et eh bien il y en a un de ces deux Indiens qui va pas du tout respecter le protocole. Voilà, foutre lui. il regarde la reine dans les yeux comme ça en insistant. Il fait son truc et tout le monde le voit faire et
forcément,
il est outré quoi. Ça se fait pas. Et puis finalement, la reine va voir que il le regarde avec insistance comme ça et va réclamer à nouveau sa présence. Voilà, va le faire venir dans ses appartements pour. Voilà pourquoi il l'a regardé comme ça, tout ça. Et alors, les valets de la reine, tout ça, stupéfait un peu, parce que ça se fait pas. Elle était toute seule, voilà, elle était en deuil de son mari depuis 30 ans déjà, depuis 30 ans à porter des habits noirs, enfin, on la voyait jamais sortir, tu vois. Et ben voilà, cet Indien qui va venir, ils vont former une espèce d'alliance un peu improbable, tous les deux. Il va lui apprendre beaucoup de choses, il va commencer à lui apprendre à parler indien, d'ailleurs, elle qui a jamais été en Inde en plus, elle est impératrice des Indes, mais elle a jamais mis un pied là-bas. Elle va comme ça reprendre petit à petit un peu goût à la vie, même si elle y arrive à la fin, hein, malheureusement. Et ils vont faire preuve tous les deux d'une grande loyauté, tous les deux, puisque tout l'entourage de la reine, eh bien, vont tout faire pour détruire cette amitié, parce que ça se fait pas.
Forcément, voilà. C'est pas dans le protocole.
Non, pas du tout. Puis c'est un musulman. Enfin, voilà, à l'époque, c'était très, très. C'est pas du tout dans le même monde. Et donc, ils vont essayer de tout faire pour détruire cette amitié, cette alliance, alors que elle se sent très bien avec lui, puis lui aussi. Donc voilà, vous découvrirez comme ça bien une autre facette de la reine Victoria qui, sur la fin, commençait un peu à reprendre un peu son
goût à la vie.
Et puis surtout son rôle de reine, hein, parce qu'elle va commencer à refaire quelques trucs qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Et donc vous découvrirez ça dans Confident Royal, cet Indien qui a tapé dans l'œil de la reine, on va dire ça comme ça, de la reine Victoria en 1887.
cette semaine en version originale sous-titrée le lundi 30 octobre dès 18h pour Confident Royal. Philippe, ça n'a rien à voir non plus, c'est Blade Runner 2049.
Ah oui, là, ça n'a rien à voir. C'est un film de science-fiction américain réalisé par Denis Villeneuve, je vais arriver. Et ça fait suite, bien sûr, au premier film réalisé par Ridley Scott, qui est également le producteur de la suite. Hein. C'était sorti en 1982, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avec Harrison Ford, bien sûr. Adapté du roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Voilà, c'est Philippe Dick qui avait écrit ce roman. Et ça raconte les aventures d'un Blade Runner. Donc là, on se retrouve 30 ans après les aventures de Rick Deckard, hein, Harrison Ford qui jouait le rôle du Blade Runner. Alors, donc c'est la suite, hein, c'est pas un reboot, ni voilà, c'est bien la suite. Alors, je rappelle un peu le premier, pour ceux qui s'en rappellent pas. Ça se passe en 2019 à Los Angeles, un Los Angeles un peu post-apocalyptique, hein, il pleut tout le temps, c'est que de la ville, ouais, des grands immeubles partout, c'est bitumé dans tous les sens, il y a quasiment plus un brin d'herbe.
C'est glauque.
Voilà, et puis on retrouve Rick Deckard, interprété par Harrison Ford, c'est un ancien policier qui va reprendre du service pour traquer un groupe de réplicants. Alors les réplicants, c'est des androïdes qui ont été créés à l'image de l'homme. Voilà, en fait, pareil. On ne les voit pas forcément du premier coup d'œil comme ça, si c'est vraiment des androïdes ou des vrais gens. Hein. Et ils ont été créés comme ça, surtout presque pour en faire des esclaves, en fait, hein, pour tous les travaux un peu pénibles, les trucs un peu dangereux, on les envoyait à l'armée, enfin voilà. Tout ça, c'était des androïdes. Et suite à une révolte sur Mars, les androïdes se sont révoltés. Eh bien, ils ont été interdits sur Terre. Voilà. Et donc, Harrison Ford a été chargé de les pister, de les traquer. Et de les tuer parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être sur Terre. Voilà. Donc, dans la suite, on se retrouve en 2049, voilà, 30 ans après, hein, des humanoïdes qui sont toujours issus du génie biologique, les réplicants, hein, toujours la même chose. Alors là, ils ont été intégrés du coup, dans la société pour assurer la survie de l'humanité. Puis on retrouve K, qui est un des plus récents modèles, qui est conçu pour obéir. Il travaille comme Blade Runner à la police de Los Angeles. Voilà, là, mais ils emploient des androïdes pour chasser d'autres androïdes. Voilà.
C'est logique.
Bah oui, mais il ne reste plus beaucoup de monde sur la Terre, hein, donc voilà, faut faire avec. Et alors, la mission de ce Blade Runner consiste à pourchasser les anciens modèles, justement, que Harrison Ford n'a pas réussi à tous à tout tuer. Donc, il va devoir les pourchasser, les éliminer, tous les anciens modèles délinquants. Et il va donc découvrir, ce réplicant va découvrir un secret enfoui depuis très longtemps et qui est capable de changer la face du monde. Alors, les plus hautes instances vont décider que non, il ne faut pas révéler ce secret et que cet androïde qu'il a trouvé, eh bien, c'est lui qui va être pourchassé maintenant. Voilà, il va être traqué et éliminé. Son seul espoir va être de retrouver Rick Deckard, Harrison Ford, voilà, qui est l'ancien Blade Runner, qui a disparu depuis des décennies. Hein, voilà, comme forcément, on n'a pas entendu parler de lui depuis 30 ans. Et puis là, on va devoir faire appel à lui, on va le rappeler. Alors, on retrouve Ryan Gosling dans ce film, Harrison Ford, bien sûr, Jared Leto, voilà, avec un accueil plutôt positif, hein, dans le monde cette suite de Blade Runner 2049. Donc.
À découvrir cette semaine au cinéma, il est en version originale sous-titrée ce lundi 30 octobre dès 21h. Fanny, on poursuit avec la fête du cinéma d'animation et un atelier, c'est Zombie Millennium.
Zombielennium.
Merci, Fanny.
Pour Halloween, on vous présente un film d'horreur pour les enfants conseillé à partir de 7 ans. Film d'horreur peut-être, mais même s'il s'agit de monstres, il n'y a aucune scène choquante qui fasse vraiment peur. On sursaute juste de temps en temps, mais avec plaisir.
Il n'y a pas de clown
Non.
C'est pas ça, quoi. Ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Les adultes apprécieront également Zombielennium. Cette comédie familiale a des petits airs de lutte des classes et dénonce les inégalités sociales. Zombielennium est un parc d'attractions du nord de la France, à Valenciennes plus exactement, au cœur d'une région industrielle et un peu sinistrée. Hector, contrôleur des normes de sécurité dans les lieux publics, s'y rend pour une visite et découvre assez rapidement que les zombies, vampires, loups-garous, momies, squelettes et autres monstres que l'on y croise ne sont pas de simples humains déguisés, mais de vrais monstres.
J'ai peur.
Alors qu'il prend la décision de fermer le parc, il est mordu par Francis, le vampire directeur, et se retrouve à son tour monstre et employé de Zombielennium. Le film a été réalisé par Arthur Depin et Alexis Ducor en animation 3D, d'après les bandes dessinées du même nom d'Arthur Depin. Je vous conseille d'ailleurs de les lire, vous pouvez les trouver à la bibliothèque de Lille. L'univers graphique de la BD est respecté dans le film, il y a en revanche quelques différences scénaristiques. Pour la musique, les deux réalisateurs ont fait appel au chanteur du groupe Skip the Use, donnant au film un caractère très rock'n'roll collant parfaitement à l'ambiance assez déjantée du film, avec ses monstres Bad Boys et son directeur qui négocie avec le diable. Vous pouvez aussi regarder le clip de la chanson Nameless World de Skip the Use, qui a été réalisé par l'équipe du film pour présenter l'univers graphique du projet. C'est la dernière séance atelier que l'on propose avec Olivier Gadal et Oya Film pour la fête du cinéma d'animation qui se déroule durant tout le mois d'octobre partout en France. On vous accueille au Ciné-Ilé à partir de 14h pour un atelier de cinéma d'animation où l'on proposera aux enfants et à leurs parents de réaliser des monstres animés avec la technique du papier découpé.
Ah, faire des vampires, par exemple.
Par exemple. Et ensuite, Zombielennium sera projeté à 16h.
C'est le mardi 31 octobre au cinéma. Il est dès 14h. Le tarif, c'est 4,50€. Ma
c'est
Fanny.
Ça.
En plus, c'est pour Halloween, juste bien.
Bah, normal. C'est le but aussi, Philippe. Merci, Fanny. On se retrouve en grande forme dès la semaine prochaine.
À bientôt.
Merci, Philippe. On se retrouve également en grande forme dès la semaine prochaine.
Bah oui, puis tous au cinéma et puis faites les ateliers et tout.
Exactement. Merci, Martine. Rendez-vous également en grande forme dès la semaine prochaine.
Mais absolument.
Demain, dans Je vous dis pas, on continue ce tour d'horizon du festival d'Hébernic en folie avec en interview du rock, du punk et le groupe Sweep Like an Ape, sans oublier la déambulation de Syllabo Billette et le hip-hop soul reggae de Satya à découvrir demain dans Je vous dis pas. Bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale, du lundi au vendredi à 12h15 et 19h15 sur Neptune FM.